Mais oui, bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
C'est l'une des plus grandes révolutions scientifiques de l'histoire et c'est un bouleversement majeur dans nos représentations du cosmos, la théorie de l'héliocentrisme. Si l'histoire a retenu le nom de Copernic comme étant la figure de proue de cette révolution mettant fin à une conception erronée du cosmos, il ne faut pas oublier dans cette aventure d'autres grands noms qui ont permis de valider cette théorie, tels que Kepler, Galilée ou encore Newton. On remet donc aujourd'hui le Soleil au centre du bal des planètes et par la même occasion, la Terre et l'humanité à leur juste place. Héliocentrisme, vive la révolution, c'est le programme cosmique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour nous raconter cette histoire de l'héliocentrisme, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Bernard Metz. Bonjour.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes professeur émérite d'histoire des sciences et d'épistémologie à l'Université de Lille. Nous sommes également en ligne avec Richard Taillet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en physique à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Alors on va rentrer tout de suite dans le bal des planètes. Et pour commencer, Bernard Metz, j'aimerais qu'on revienne un petit peu aux sources, aux origines et à l'Antiquité, avant même de parler du grand Aristote. À quoi ressemblait le cosmos tel que les Grecs le concevaient ?
Eh bien, d'abord, les étoiles, le ciel étoilé, c'est quelque chose qui était toujours au-dessus des têtes. Et les astres déterminent le jour, la nuit, les saisons, le retour des constellations. Et les Mésopotamiens, les Chaldéens avaient observé très précisément ces astres et leur cycle régulier. Alors, il ne s'agissait pas seulement de faire des tables, mesurer. Ils avaient mesuré plusieurs milliers d'étoiles à l'œil nu et vu qu'ils retournaient toujours dans les mêmes configurations sans modifier leurs positions respectives, et que il y avait aussi dans ces étoiles sept astres errants, les planètes, les astres errants qui elles bougeaient dans les constellations. Alors, on remarquait évidemment le retour de la Lune, du Soleil, qui faisait partie des planètes, de Mars, de Vénus, mais il ne s'agissait pas seulement de mesurer, mais de comprendre comment ça marchait. Et un des premiers qui a donné une théorie complète, peut-être, de ce ciel, c'est Pythagore. A-t-il existé ? Nous n'en savons rien, mais les pythagoriciens, eux, ont existé. Et les pythagoriciens, faisaient du feu la chose centrale dans l'univers, le feu, quelque chose qui était beaucoup important, si vous voulez. Et Pythagore aurait observé que la Terre est sphérique parce que les bateaux montrent le bout de leur voile avant d'apparaître à leur coque, parce que le Soleil est sphérique, parce que la Lune est sphérique, parce que au moment des éclipses on voit un cercle gagner la Lune ou gagner le Soleil, et donc il a fait l'hypothèse et la conjecture que le ciel était constitué par des planètes sphériques avec au centre le feu, autour les autres planètes, et comme les constellations tournaient d'un mouvement circulaire et uniforme sans jamais se déformer, la Grande Ourse ne se déforme jamais, il a imaginé que toutes ces étoiles étaient accrochées à la sphère des étoiles fixe qui tournait donc autour du feu.
Donc on était
sur des continuateurs.
C'était un cosmos finalement qui était composé de sphères concentriques immobiles, Bernard Metz.
Mobile autour du feu. Mm-hmm. Mobile autour du feu des continuateurs d'Aristote, de Pythagore, les pythagoriciens. Eh bien, par exemple, Aristarque de Samos, au 3e siècle avant notre ère, a dit non, ce n'est pas un feu qui est au centre du monde, mais c'est le soleil. Mm-hmm. Et le soleil et cette théorie des pythagoriciens, eh bien, d'autres, Épicure, Lucrèce, beaucoup plus tardivement, l'ont reprise, mais elle a été de moins en moins défendue par la grande cohérence qu'avait le monde d'Empédocle, de Platon et d'Aristote. Qu'est-ce que c'est ? Oui, qu'est-ce que c'est ce monde ? Alors, bien contrairement aux pythagoriciens qui mettaient le feu ou le soleil au centre du monde, Empédocle, Platon et Aristote mettent la Terre au centre du monde et mettent les planètes, dont le soleil, qui tourne autour de la Terre et la sphère des étoiles fixes qui tourne autour de la Terre également. Alors, ce schéma général a été vraiment transformé en quelque chose, en une philosophie complète par Aristote, qui expliquait à la fois le cosmos, mais la vie, mais nos sensations, avec une logique inducto-déductive basée sur une rationalité vraiment très forte. Et Aristote raisonne de la manière suivante. Je vois, par exemple, un caillou qui tombe sur la Terre à mes pieds, donc elle est fixe et non pas mobile, comme le disait Pythagore. Mmh. Sinon, le caillou tomberait au loin. Ça, c'est la première chose. Et la Terre, eh bien, la Terre est composée par des éléments, la Terre, l'eau, l'air, le feu, et nous vivons en naissant, en mourant. C'est une Terre de génération et de corruption, c'est une Terre qui a des mouvements selon le lieu, mouvements selon la vie, rectilignes, et tandis que regardez le ciel, et vous voyez que toutes les planètes tournent d'un mouvement circulaire et uniforme, de même que les constellations. Donc dans son monde, Aristote fait deux régions cosmiques bien distinctes. La Terre, avec des générations, corruption, mouvements rectilignes, et le ciel, avec des mouvements circulaires et uniformes, éternel et parfait, le lieu de la perfection.
Richard Taillé, je vous interromps, Bernard Hamet, parce qu'on peut peut-être faire intervenir Richard Taillé sur cette question et peut-être rappeler, comme le faisait à l'instant Bernard Hamet, que ce qui est intéressant, c'est que dans cette conception du cosmos d'Aristote, avec une Terre immobile au milieu de tous les astres qui tournent autour, il y avait une cohérence observationnelle et une cohérence également religieuse, puisque on imaginait que le ciel était le domaine des dieux. Alors on peut rappeler aussi la distinction entre le monde supralunaire, le monde sublunaire que postule Aristote, et rappeler voilà que tout ça était très cohérent selon les conceptions grecques antiques.
Oui, alors il faut juste faire attention à ce qu'on entend par cohérent et ne pas faire de l'anachronisme.
Bien sûr.
La science telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existait pas et il n'y avait pas l'idée d'établir un modèle et puis ensuite de comparer aux observations. Aristote ou les autres l'auraient fait, ils auraient vu très rapidement que c'était pas si parfait que ça. En particulier, les planètes effectivement semblent décrire des trajectoires assez simples dans le ciel, mais quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que en fait ce mouvement il est quand même plutôt compliqué. Il y a notamment des planètes qui de temps en temps font demi-tour dans le ciel, on appelle ça des rétrogradations. Et ça déjà, ça met à mal un système dans lequel les planètes seraient situées sur des objets, des sphères qui tourneraient de façon uniforme. Donc je voulais juste dire que le but d'Aristote et des gens de l'époque, c'était pas d'essayer de rendre compte de façon très précise de ce qu'il y a dans le ciel.
Mmh. Voilà. Bernard Hamet, si on continue d'avancer, donc on perçoit déjà quelques petites limites au modèle proposé par Aristote. Si on continue d'avancer un petit peu dans la genèse de cette conception du cosmos, il y a un autre grand nom, c'est Hipparque. Qu'apporte Hipparque à la conception aristotélicienne du cosmos?
Alors,
quelles vont être ses contributions?
Effectivement, comme l'a dit Richard Taillet, si on confronte le système d'Aristote aux observations, ça marche pas vraiment. Et les continuateurs d'Aristote vont améliorer beaucoup son système. Alors, Hipparque, que vous citez, va donner des mesures de la Terre, de la Lune, du Soleil, et avec des problèmes de trigonométrie assez simples, il va postuler des distances entre la Terre, la Lune et le Soleil. Mais c'est surtout après lui Ptolémée, mm-hmm. Ptolémée qui vit au deuxième siècle de notre ère, qui héritier de la science aristotélicienne, d'accord avec la science aristotélicienne, va confronter Aristote avec les observations et va compliquer énormément d'Aristote sans mettre en cause le schéma général, c'est-à-dire la Terre et les éléments au centre du monde, le lieu des mouvements rectilignes et le ciel éternel et avec des mouvements circulaires et uniformes, limités par la sphère des étoiles fixes. Ça, il le garde. Mmh. Mais pour expliquer les rétrogradations des planètes dans les constellations dont parlait tout de suite Richard Taillet, pour expliquer les différences d'intensité lumineuse avec lesquelles apparaissent les planètes à des moments différents de l'année ou des cycles, eh bien, il va inventer une machinerie géométrique dans laquelle chaque planète va être accrochée à une sphère qui tourne de façon circulaire et uniforme autour du centre d'une autre sphère qui tourne de façon circulaire et uniforme autour de la Terre.
C'est ce qu'on appelle, c'est les concepts d'épicycle et de déférent.
Et cette machinerie géométrique, un, respecte le schéma général d'Aristote, deux, est très simple dans sa formulation. C'est-à-dire qu'il y a des combinaisons de mouvements circulaires et uniformes, d'épicycles, autour de centres qui sont portés par des déférents, qui tournent de façon circulaire et uniforme autour de la Terre. Mais épicycle, déférent, sphère qui tourne de façon régulière, il faut qu'il en ait 72 pour expliquer les mouvements des 7 planètes que l'on connaît à cette époque et qui sont visibles à l'œil nu. Mais les précisions d'Aristote, qui ont été précisées aussi par ses successeurs, par exemple la mathématicienne Hypatie, qui a eu un très mauvais sort par les chrétiens à Alexandrie, eh bien, vraiment, ce système de Ptolémée-Aristote arriver d'une part à expliquer tous les phénomènes, la vie, les sentiments, par contre les sensations et la chute des corps sur Terre, vraiment d'une façon extraordinaire, et la position des astres à quelque chose comme entre 5 et 10 minutes d'angle près. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un degré. Et une minute, c'est à 60e de degré, et tout ça à l'œil nu, à 10 minutes d'angle près.
Et ça, c'est très intéressant de le rappeler, Richard Taillet, c'est qu'à l'époque, on a très peu, voire pas de moyens d'observation, tout repose sur l'observation à l'œil nu du ciel, et à partir de cette observation, naissent ces modèles-là.
Oui, alors, effectivement, donc, il faudra attendre Tycho Brahe, juste après Tycho Brahe et Galilée pour que, effectivement, on ait accès à des instruments. Cependant, je veux juste, si vous pouvez me permettre, mettre un tout petit bémol à ce qu'a dit monsieur Maître. Donc, effectivement, on arrive à visualiser et à positionner les objets dans le ciel d'une manière extrêmement précise. Si on confronte toutefois les prédictions des modèles, en particulier de Ptolémée, et qu'on essayait de faire vraiment l'exercice de voir si à tout instant les planètes sont là où on s'attend qu'elles soient, il y a des différences qui peuvent être de l'ordre de quelques degrés quand même. Et un degré, c'est deux fois la taille de la Lune dans le ciel. Donc, quelques degrés, c'est plusieurs fois la Lune. Donc, si les gens s'étaient vraiment intéressés à la question de est-ce que le modèle rend très précisément compte de la réalité, ils se seraient déjà aperçus que c'était pas le cas. Mais encore une fois, là, je fais une remarque tout à fait anachronique. C'était pas la question que se posaient les gens, d'arriver à rendre compte des rétrogradations, à savoir à peu près quand elles allaient arriver, dans quelle zone du ciel, etc. C'était déjà déjà un succès énorme. Donc je rejoins tout à fait ce qu'a dit Monsieur Maître sur ce point-là.
Et on peut souligner, Bernard Maître, que le modèle ptoléméen va connaître un succès considérable, puisqu'il sera le modèle admis de modèle du cosmos pendant 14 siècles après sa disparition. Alors expliquez-nous un petit peu comment ce modèle a été transmis, perpétué, peut-être questionné pendant la fin de l'Antiquité et le Moyen-Âge.
Alors, un bémol à mon tour à ce qu'a dit Richard Taillet, c'est que la Lune telle que l'on voit, c'est quand même déformé par les illusions d'optique. Hein. 2 degrés, si vous le représentez, c'est pas la Lune, mais donc il y a une illusion d'optique pour la taille de la Lune. Alors, ce modèle de Ptolémée, effectivement, va être recueilli par les Arabes. Par les Arabes et la civilisation musulmane et les Arabes vont considérer les écrits de Ptolémée comme le plus grand des livres, l'Almageste. Et les Arabes vont développer énormément l'astronomie. D'une part, parce que c'est la science des sciences, la plus belle des sciences. D'autre part, parce qu'ils en ont besoin. À la fois pour se déplacer dans les déserts et d'autre part pour trouver la direction de la Mecque pour faire les prières. Et donc les Arabes vont développer l'astronomie de Ptolémée, la préciser toujours plus les observations, inventer quelque chose qui s'appelle les observatoires, le premier à Bagdad, le plus développé à Mahare avec Tutsi, et vont inventer aussi ou perfectionner des outils qu'ils transportent avec les caravanes, les astrolabes, pour pouvoir faire le point, pour déterminer les latitudes. Les longitudes, c'est beaucoup plus difficile. Mais les latitudes, voilà. Et les Arabes, donc, avec les astrolabes, les observatoires, vont développer Ptolémée, et surtout Imrush, qu'on connaît en Occident comme sous le nom d'Averroès, au XIIe siècle, dans l'Andalous, donc l'Espagne et le Maroc, va découvrir et rétablir Aristote, qu'on avait un peu perdu avec la chute de l'Empire romain. Et Imrush, d'une part, va rétablir Aristote et va le mettre en conformité avec la foi musulmane. Et comment ? Eh bien, effectivement, ce que vous disiez, Antoine Beauchamp, au début, c'est-à-dire, nous sommes la terre de génération de corruption, de péché, et le monde, c'est la perfection, le monde des cieux, c'est la perfection, c'est Dieu, c'est la perfection divine, et d'ailleurs, cette perfection divine a créé un monde qui est des cieux, qui était parfait. Voilà. Donc,
ça explique aussi, par exemple, du côté des penseurs chrétiens comme Thomas d'Aquin, que Aristote aussi soit remis au bout du jour.
Alors, tout à fait. Alors là, si vous voulez, vraiment, Imrush va respecter Aristote au point où il respecte l'éternité. Pour le monde d'Aristote, c'est un monde éternel. Imrush respecte ça. Au même moment, le juif Maïmonide, qui vit dans la même ville que Imrush, va dire « Mais non, le monde a été créé et Dieu l'a créé, donc le monde a été créé et il sera détruit. » Et les savants latins ont développé pendant tout le Moyen-Âge quelque chose dans les monastères. C'était des clercs qui faisaient les sciences, et ces clercs ont essayé toujours de concilier la foi et la raison. La foi et la raison, c'est le gros système d'unification des recherches des moines jusqu'au XIIe, XIIIe siècle et après. Et donc, parmi ces moines, il va y avoir Thomas d'Aquin, que vous venez de citer, qui connaît Imrush, qui a la connaissance d'Aristote par Imrush, et qui a la connaissance aussi de Maïmonide, et qui va écrire une scolastique dans laquelle le monde d'Aristote va être mis en conformité totale avec l'Écriture et avec la Bible. Donc, on va avoir, à partir du XIIIe siècle, une concordance totale entre la foi et la raison, la foi étant donnée par la Bible, les évangiles, et la raison étant donnée par Aristote.
Et c'est dans ce contexte donc établi avec un Aristote en gloire qu'intervient un certain Copernic qui va arriver un petit peu comme une petite boule dans un jeu de quilles. On va y venir dans un instant.
France Culture, Eureka, Antoine Beauchamp.
La révolution opérée par Copernic dans les notions fondamentales de l'astronomie s'énonce si clairement qu'on méconnaît souvent l'immense labeur, la longue méditation qui a été nécessaire à l'établissement de ce nouveau système du monde. La conclusion, en effet, est simple. Et l'on répète, sans s'informer davantage, Copernic a affirmé que c'était la Terre qui tournait réellement autour du Soleil et non pas, malgré les apparences, le Soleil qui tournait autour de la Terre. En cette simple proposition, on tire tout de suite des conséquences philosophiques. Le génie de Copernic, dit-on, prouvait que la Terre n'est plus le centre du monde. Mais ces vues générales, ce résumé élémentaire, nous empêche de vivre un véritable drame de la pensée humaine. Si l'on se reporte à l'histoire vécue, les choses sont à la fois plus complexes et plus psychologiquement instructives. Essayons donc de placer l'homme que fut Copernic dans son siècle. Nous donnerons ensuite une esquisse aussi précise que possible de son système.
C'est un luxe d'avoir la voix de Gaston Bachelard pour introduire ce deuxième temps de la première partie de notre émission. Richard Taillet, voilà, il a tout dit, Bachelard. Il faut replacer Copernic, Nicolas Copernic, dans son contexte, dans le contexte de la Renaissance, dans un contexte de développement des connaissances particuliers. Une période aussi de grande remise en question. Alors en quoi Nicolas Copernic incarne-t-il finalement son temps ?
Alors c'est effectivement un petit peu paradoxal parce que Copernic donc il est chanoine, hein, il est un petit peu isolé là dans les régions du nord de la Pologne. Il a pas tellement de relations avec les autres personnes qui s'intéressent à ce même problème, et lui il se pose un problème en fait qui est technique au début. Et pour ça, je reviens juste deux secondes sur ce qui a été dit avant, sur la présentation du modèle de Ptolémée. Mmh. En fait, le modèle de Ptolémée essaye de décrire le mouvement des planètes par des cercles qui tournent sur des cercles, comme ça a été dit. Mais quand on essaye de faire ça, ça marche pas exactement. Et il faut mettre une petite astuce. Il faut en fait que les objets ne tournent pas tout à fait à une vitesse constante autour des cercles. Il faut qu'ils aillent plus vite à certains endroits et moins vite à certains autres. Et ça, c'est en violation flagrante avec l'hypothèse de départ qui est que le cercle uniforme, c'est vraiment la forme qui est belle et qui est parfaite. Et donc, il y a un peu un échec dans Ptolémée. Et le but de Copernic, c'est vraiment d'essayer de revenir sur ça et de le corriger. Et donc, il y a deux aspects très différents, mais vraiment très différents, hein, dans ce qu'a fait Copernic. D'une part, il contourne cette difficulté de Ptolémée en introduisant des cercles qui sont disposés de manière différente. Et d'autre part, l'objet central au centre de ces cercles disposés de nouvelle façon, en fait, c'est le Soleil. Donc, c'est-à-dire qu'il est amené à disposer les cercles autour du Soleil pour que, effectivement, résoudre le problème technique qu'il avait au départ. Et donc ça, on arrive au modèle héliocentrique. Et ce qui est pas très bien, je pense, diffusé ou perçu dans la culture générale, hein, sur tout ça, c'est que c'est pas une simplification absolue dans le sens où le nombre de cercles que Copernic met dans son système, il c'est encore des cercles, hein, c'est encore des cercles. C'est le même que c'est à peu près le même que Ptolémée, il y a peut-être un ou deux en moins, mais grosso modo, il a pas vraiment changé ça. Il y a beaucoup de choses. On n'aura probablement pas le temps de revenir sur tout, mais il y a plusieurs aspects qui sont améliorés par le système de Copernic. En particulier, on arrive mieux à déterminer la distance relative des planètes, hein, par rapport au Soleil. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel Ptolémée n'avait aucun moyen de connaissance, alors que Copernic, lui, y arrive. Mais en tout cas, voilà, pour répondre à la question de départ, comment est-ce que Copernic se place dans son siècle, il est quand même beaucoup rattaché
au passé, au Moyen-Âge, voire aux anciens, dans la mesure où c'est encore des cercles sur des cercles. Il fait de la géométrie, en fait. Il fait de la géométrie. Ça va changer plus tard. Et quand on lit, quand on met vraiment côte à côte l'ouvrage de Copernic et l'ouvrage de Ptolémée, en fait, on se rend compte que chapitre par chapitre, c'est la même chose. C'est-à-dire que les solutions techniques trouvées sont différentes, mais ils se posent exactement les mêmes questions avec des outils qui sont très similaires, c'est de la géométrie du cercle. Mmh.
Alors Bernard Maître, ma question peut-être initiale n'était pas tant d'ordre théorique que d'ordre biographique sur l'incarnation de Nicolas Copernic dans son époque. Qu'est-ce qu'il incarne? Quelle est sa biographie finalement? Quel est son parcours intellectuel?
Je crois que Antoine Beauchamp, avant de parler de Copernic, il faut quand même parler des devanciers. Entre Thomas d'Aquin et Copernic, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et beaucoup de choses qui se passent, d'une part, dans l'univers de Thomas d'Aquin, au XIVe siècle, il y a Buridan, qui est un savant qui vit à Paris, qui commence à mesurer la chute des corps. Il mesure la chute des corps et s'intéresse à la chute des corps. Et il dit, si quelque chose était sur la Lune, il tomberait de la même façon sur la Lune. Donc, postule que peut-être il y aurait une identité entre le ciel et la terre. Ça, c'est déjà énorme, 14e siècle. Et il va essayer de préciser le mouvement sur terre en imaginant, en disant, mais enfin, on voit le soleil bouger. Mais lorsque je suis sur un bateau et que je m'éloigne du port, je vois le port s'éloigner. Or, c'est le bateau qui bouge, c'est pas le port. Donc, il ne faut pas attendre simplement une visibilité des objets pour savoir qu'ils bougent ou qu'ils ne bougent pas. Et il fait des expériences mentales sur un bateau, envoyer une flèche verticalement au pied du mât en disant si le bateau bouge ou si le bateau ne bouge pas, de toute façon, la flèche retombera au pied. Alors, ces travaux de Buridan sont tout à fait importants et vont être développés par un successeur, 14e siècle aussi, Nicole Aurem. Nicole Aurem, Paris, Lisieux, évêque de Lisieux, et qui fait des expériences mentales en disant « Nous nous plaçons dans le cale d'un bateau, nous faisons des expériences de physique, on saute à droite, à gauche, en haut, en bas, on fait tomber de l'eau dans le col d'un ballon, on fait voler un oiseau ou des choses comme ça, on ne peut jamais dire si le bateau marche sur une mer calme ou s'il est à l'ancre. Donc, aucune loi physique ne peut nous dire si le bateau marche d'un mouvement uniforme ou s'il est à l'ancre. Alors ça, c'est énorme déjà aussi. Et alors, Nicole Aurem calcule que ça serait plus simple de considérer que le soleil est au centre du monde. Mmh. Mais voilà, il est évêque et à cette époque, foi et raison, c'est important. Josué, dans la Bible, a arrêté le soleil. Donc, s'il arrêtait le soleil, c'est que le soleil bouge, donc on doit croire que la Terre est au centre du monde. Mmh. Et Nicolas de Cuse, un cardinal qui fait les papes, qui ne veut pas être pape parce que ça l'embêterait trop, et extrapole énormément en disant « l'univers est infini ». Et il n'y a pas de différence, comme fait Aristote, entre le droit et le courbe. C'est-à-dire que si on a un cercle qui est très, très, très grand, sa tangente coïncide avec le cercle. Donc, il n'y a pas de différence de nature entre le droit et le courbe. Et l'univers, eh bien, tous les soleils sont toutes les étoiles sont des soleils, et toutes les étoiles ont des planètes autour d'eux. Le centre est partout et la circonférence est nulle part. Et ça, c'est dans la filiation irrévérencieuse de Thomas d'Aquin. Et ça se passe entre le XIVe et le XVe siècle.
Et Copernic lui arrive justement au tournant du 15e et du 16e siècle, dans cette espèce de d'ébullition lente mais néanmoins continue autour de ces questions liées au cosmos, Richard Taillet. Alors du coup, comment lui va s'inscrire dans ces interrogations-là? De quelle nature vont être ces interrogations? Est-ce que ce sera des interrogations plutôt de l'ordre mathématique, de l'ordre physique?
Oui, alors bon, quand on ouvre le De Revolutionibus, c'est un bouquin de géométrie hein, essentiellement. Il y a quelques chapitres en début d'ouvrage qui effectivement synthétisent la pensée, mais pour le reste, vous pouvez prendre votre crayon, votre tableau noir, votre craie, puis si vous voulez reproduire l'ouvrage, il s'agit vraiment de géométrie d'un bout à l'autre. Et c'est vraiment passionnant. Hein, bon, mais ce pourquoi on retient son nom et effectivement sa contribution, c'est de, donc comme vous l'avez dit, d'avoir placé le soleil au centre de l'univers, hein, ce qu'on appellerait l'univers à l'époque. Mais alors, il n'a pas non plus affirmé, et c'était pas son but, d'essayer de prouver que le soleil était au centre de l'univers. C'était pas tellement ça la question. Et pas plus que, d'ailleurs, je voudrais aussi revenir un tout petit peu sur la façon dont vous avez présenté la question au début, et c'est tout à fait normal de le faire comme ça. On a entendu au début une phrase qui était que, voilà, Copernic a contribué à dénoncer l'idée erronée selon laquelle la Terre serait au centre de l'univers. Bon.
Oui, Copernic n'est pas un militant, n'est pas un provocateur, il réfléchit en savant, et il cherche pas forcément à renverser la table.
Exactement, il réfléchit en savant, et la question, la question en fait, c'est comment est-ce qu'on décrit les objets qui sont dans le ciel? C'est ça la question qu'on se pose. Donc qu'on comprenne, disons, au centre de l'univers, le Soleil ou la Terre, à la limite, peu importe, lui, il a des arguments pour indiquer que c'est plus simple pour lui si on met effectivement le Soleil. Il indique des arguments de nature physique, disons, il désamorce les arguments qu'il sait qu'on va lui opposer, ce qu'a indiqué M. Metz, hein, donc le fait qu'on ne sent pas le mouvement de la Terre, etc. Donc il était tout à fait conscient qu'on pouvait lui opposer ça, donc lui il répond sur des aspects de physique également. Mais on voit quand même dans l'ouvrage, tout au long de l'ouvrage, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment des considérations techniques et de enfin décrire l'univers par des cercles parfaits. C'est vraiment ça qui le motive. Alors, je me permets de dire ce qui le motive. En fait, je ne devrais pas, parce qu'il se trouve que Copernic, on a très très peu d'informations biographiques, et en particulier des écrits qui indiqueraient pourquoi il a fait ceci ou cela. C'est un gros problème des historiens des sciences dans ce domaine. Il a laissé assez peu de choses derrière lui. Donc, il faut aussi se méfier en essayant de lui prêter des intentions. Donc, je vais arrêter de le faire à partir
c'est
de
toujours maintenant. Un peu compliqué, effectivement, de psychologiser des personnages à 5 siècles ou plus d'écart. Bernard Metz, une réaction à ce que vient de dire Richard.
Oui, tout à fait. Alors là, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qui vient d'être dit, tout en notant que c'est pas une psychologisation de Copernic qu'il s'agit de faire, mais de voir où Copernic a formé ses conjectures. Copernic, allons-y sur la biographie, c'est quelqu'un qui n'avait pas de père et dont l'oncle était évêque. Et l'oncle a voulu le nommer chanoine, et chanoine à l'époque, c'est pas du tout un prêtre, c'est pas forcément un prêtre, c'est quelqu'un qui administre des biens. Et quelqu'un qui administre des biens, eh bien, on prend toujours une partie. Vous avez vu les fermiers généraux plus tard en France. Et donc, ça apporte beaucoup de richesses. Alors, que l'oncle nomme le neveu chanoine, ça déplut. Et pour régler le problème, l'oncle a envoyé Copernic en Italie.
À Bologne.
À Bologne. Et Copernic vit pendant 9 ans à Bologne. Alors, qu'est-ce qu'il rencontre comme lieu là-bas? Eh bien, il rencontre un univers qui, à partir du Quattrocento italien, dans la peinture, avec la perspective, met quoi? D'une part, les proportions importantes, qui ne fait plus de différence entre le ciel et la terre, et qui construit un espace univers et homogène. Et il connaît tellement le Quattrocento qu'il se représente dans un univers du Quattrocento où on connaît 2 autoportraits de Copernic le montrant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est que Copernic, donc, vit aussi dans ce monde à Bologne, dans lequel il y a un mythe solaire. Tout simplement parce que Ficin, à partir du Quattrocento également, a traduit Hermès, Trismégiste, le mythe solaire est là tout à fait présent. Or, dans le cosmos, le soleil, qui est le plus important dans la civilisation de la Renaissance, est un mi-lune. lieu entre la Terre et le ciel. C'est pas convenable. Mmh. Et donc, il y a une déstabilisation un petit peu du cosmos qui est celui de Thomas d'Aquin. Et la déstabilisation est d'autant plus facile que le calendrier de Jules César, le calendrier julien, ne marche plus. Il est en retard de 12 jours sur le Soleil. Que il y a un transfert des compétences intellectuelles depuis les monastères jusque la cour des mécènes. C'est ça que veut dire aussi le Quattrocento. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle classe d'intellectuels qui vit à la cour des mécènes. Et cette classe d'intellectuels cherche le quoi ? Eh bien, cherche les applications, alors que Thomas d'Aquin cherchait la cohérence entre la foi et la raison. Et tout ça, ça déstabilise la société. Une société qui est déstabilisée aussi par la chute de Constantinople, la découverte de l'Amérique, rappelez-vous Rabelais, Pantagruel, vous pouvez bouffer tout ce que vous voulez et puis chier sur les connaissances chier sur les connaissances antérieures, manger et il en sortira bien quelque chose. Et à cette nouvelle classe d'intellectuels qui vit chez les mécènes, bah, ils vont pas aller chez les monastères pour lire les manuscrits, et c'est pour ça que l'imprimerie va avoir beaucoup d'importance. Donc vous voyez l'importance du séjour italien de Copernic. Il rencontre le Quattrocento, un milieu intellectuel qui n'est plus lié au monastère. Il y a des livres qui arrivent de Constantinople et dont il se saisit et qu'il apprend le grec pour les traduire. Il y a des découvertes de l'Amérique qui montrent que Ptolémée et la Bible... il n'en parle pas des peuplades qui sont là et de l'Amérique. Donc tout est déstabilisé. Et Copernic va justement à Bologne vivre chez quelqu'un qui s'appelle Domenico Navarra, qui est un astronome pythagoricien. Ah oui, parce que on vient de retraduire Pythagore qui vient d'arriver de Constantinople et qu'on ne connaissait pas avant parce qu'il n'y avait pas d'échange avec Constantinople. Et Copernic apprend le grec pour lire Héraclite de Pont. Héraclite du Pont qui est qui ? Qui est un monsieur qui était un sophiste, qui vivait après Aristote. Les précepteurs sophistes n'avaient pas de doctrine également. Ils essayaient de faire leur beurre avec toutes les connaissances. Héraclite du Pont, lui, avait admis Aristote et admis Pythagore en même temps. C'est-à-dire qu'il avait dit que la Terre était au centre du monde, mais le Soleil tournait autour de la Terre avec toutes les planètes qui tournaient autour du Soleil.
C'est-à-dire que la Terre avait un statut privilégié par rapport aux autres planètes. C'était une espèce de géo-héliocentrisme avant l'heure.
Oui, donc Copernic apprend le grec pour traduire Héraclite du Pont, et juste après, il traduit Aristote de Samos, pythagoricien. Et son oncle lui dit, ça y est, j'ai résolu le problème. Oh, attends un peu, il faut que je finisse mes études, et ainsi de suite. Et il ne veut pas rentrer. Et il ne va jamais vouloir la prêtrise. Et lorsqu'il va rentrer après une dizaine d'années, d'une part, il est médecin, d'autre part, il est administrateur de biens, et il n'a pas beaucoup de temps pour ses travaux. Alors, il va faire circuler d'abord un petit commentaire, il l'appelle le commentaire Iolus à travers toute l'Europe, dans lequel il dit le Soleil est au centre du monde, enfin le système que l'on connaît de Copernic, et je le prouverai plus tard par des calculs. Il n'a pas le temps de faire ses calculs. Et les calculs, on n'a pas l'habitude de le faire en Occident, les Arabes les faisaient, mais ils ne le faisaient pas. Et ces calculs, lorsqu'ils vont être terminés, il va les publier l'année de sa mort.
Ce sera publié en 1543, le fameux De Revolutionis. De Revolutionibus Orbium Celestium. Restez avec nous parce qu'on avance dans cette émission. On va y revenir dans un instant à ce De Revolution des Orbes Célestes qui est publié en 1543 à la mort de Copernic. You Sun is Shining par Bob Marley dans Eureka. Nous parlons tout au long de cette heure de la mise au point de la théorie de l'héliocentrisme. Et pour en parler, nous sommes accompagnés de Bernard Met, professeur émérite d'histoire des sciences et d'épistémologie à l'Université de Lille. Nous sommes également en ligne avec Richard Taillet, enseignant-chercheur en physique à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Alors le temps file, on doit continuer d'avancer dans cette mise au point de la théorie de l'héliocentrisme. Richard Taillet, on évoquait à l'instant ce dérévolution des orbes célestes qui paraît l'année de la mort de Copernic. Quelle en est la réception dans les milieux scientifiques et les milieux religieux, sachant que ces deux milieux étaient souvent très voisins à l'époque?
Alors la réception, il y a de l'intérêt, hein, très très clairement, et bon, il y a effectivement une réalisation que ce que présente le modèle que présente Copernic est valide, et qu'on peut présenter le mouvement des planètes d'une manière différente de celle de Ptolémée. Alors il y a une petite confusion au début, dans les premières, on va dire, décennies. Il y a une préface qui a été mise dans l'ouvrage. Qui indique très clairement que tout ce qui est présenté, attention, ce ne sont que des hypothèses et que ça ne décrit pas forcément la réalité, que ce n'est même pas le but. Le but, c'est de rendre compte du mouvement des planètes. Et on s'est aperçu, donc, quelques décennies après, que ce n'était pas le fait de Copernic. Donc quelqu'un dans son entourage avait voulu probablement protéger peut-être Copernic ou en tout cas son œuvre.
Le protéger des foudres de l'Église.
Voilà, éventuellement des foudres de l'Église. Bon, mais au départ, enfin, ces foudres-là, elles étaient pas si fortes. Hein. C'est venu après pour d'autres raisons, avec les guerres de religion et tout ça. Il y avait des raisons pour lesquelles des cercles religieux voulaient que l'on croie fortement ce qui est écrit dans la Bible. C'était une forme de pouvoir. Autant de Copernic. Quand Copernic travaille et écrit son ouvrage, il est pas tellement soumis à ça. Il est même plutôt encouragé à mener une réflexion ouverte sur le sujet. Donc parmi les gens qu'on appellerait aujourd'hui des scientifiques, il y a quelques grosses pointures effectivement qui lisent son ouvrage avec intérêt et qui reconnaissent quelque chose qui ressemble à un beau modèle, quoi. Voilà, qui pourrait bien décrire la réalité.
Bernard Met, Luther, le protestant Luther, traite Copernic de sot. Est-ce que c'est de la légende? Est-ce que c'est
non,
vrai?
Non, pas du tout. C'est un écrit qui existe. Ce fou qui veut mettre l'art de l'astronomie à l'envers, ça c'est du Luther. Et cet obsédé à qui il faudrait fermer définitivement la bouche, ça c'est de Calvin. Parce que effectivement, bien Copernic tombe exactement au moment de la réforme. La réforme protestante, les réformes avec Luther, Calvin, Mélenchon, et ce dernier d'ailleurs n'intervient pas contre Copernic, les deux autres très violemment, et contre l'Église catholique, les protestants veulent venir à la réalité et au sens littéral de la Bible, ce qui n'avait jamais été au Moyen-Âge. Et juste après Copernic, il y a le Concile de Trente. Et le Concile de Trente, c'est la contre-réforme. La réforme catholique et la reprise du combat contre les protestants. Et la réforme catholique va aussi s'appuyer sur le sens littéral de l'Évangile et de la Bible. Or, Josué a arrêté le soleil pour permettre de battre ses ennemis. Eh bien, c'est que le soleil tourne, donc il est sacrilège de dire que le soleil est au centre du monde.
Et c'est ce qui vaut la mise à l'index du
texte. Oh, mais la mise à l'index va venir beaucoup plus tard.
En 1616. La
mise à l'index, c'est 1616, c'est-à-dire 80 ans après la mort de Copernic. Mm-hmm. Hein, et entre les deux, il y a Giordano Bruno. Copernic, comme l'a dit tout à l'heure Richard Taillet, le premier livre de Copernic, c'est le système géocentrique, héliocentrique avec le soleil au centre, mais il faut augmenter les tailles du monde de 700 fois. 700 fois pour que on puisse décrire des planètes qui tournent sans avoir de parallaxe par rapport aux étoiles, le monde apparaît comme difforme, et d'autre part Copernic ne s'occupe que de l'astronomie et pas du tout de physique. Et comment tombe une pierre sur une terre en mouvement? Et ça, on ne sait pas l'expliquer. Et donc les grands philosophes de l'époque ne suivent pas Copernic parce parce que il ne s'applique qu'à l'astronomie et pas du tout à la physique.
C'est ça qui est vraiment très intéressant dans cette histoire, c'est que c'est pas du tout un bouleversement, un retournement immédiat que provoque la théorie de Copernic. Elle a ses limites, scientifiques, philosophiques, même physiques, vous le disiez à l'instant, pour l'époque. Et donc, du coup, il n'y aura pas forcément d'effet copernicien immédiat. Comment est-ce que, les continuateurs vont récupérer ce travail,
s'y adapter? Le grand propagateur de Copernic, c'est Giordano Bruno. Et Giordano Bruno a lu quelqu'un que j'ai cité tout à l'heure et qui est Nicolas de Cuse. Et évidemment, Nicolas de Cuse et Copernic peuvent être mis en concordance. Et Giordano Bruno, lui, n'est pas astronome, il est métaphysicien. Et il dit, comment voulez-vous que Dieu, qui a une puissance infinie, ait fait une petite crotte, un monde fini, limité par la sphère des étoiles fixes? Ce n'est pas possible. Dieu a fait un monde infini. Et si le monde est infini, chaque soleil, chaque étoile est un soleil, chaque étoile a un système planétaire, chaque planète a la vie, parce que Dieu n'a pas concentré la vie uniquement sur Terre. C'est quelque chose qui est déraisonnable et nombriliste de la part de l'homme de croire ça. Et Giordano Bruno va propager Copernic, mais bien au-delà, puisque son monde est infini. Mais il va être enlevé par l'Inquisition, torturé pendant 7 ans. Et comme il ne peut pas abjurer, il va être brûlé vif en place Campo dei Fiori à Rome, en ayant amené nu au bûcher, en ayant pris la précaution de clouer sa langue sur une planchette pour qu'il ne parle pas. Donc, évidemment, les Coperniciens vont être rendus prudents.
Autre temps, autre mer.
Les successeurs de Copernic et de Giordano Bruno vont s'attacher à montrer, à bâtir une autre physique qui va être compatible avec le mouvement de la Terre. C'est ça qui est important. Et donc, on va avoir des observateurs qui sont Tycho Brahe, dont parlait tout à l'heure Richard Taillet, qui va inventer un tas d'instruments à l'œil nu pour améliorer la précision des mesures, et il va voir que ni Copernic ni Ptolémée ne concordent avec ces mesures, donc il faut trouver autre chose, et il va repenser au système d'Héraclite-Dupont, c'est-à-dire le soleil au centre du monde, la Terre au centre du monde, le soleil qui tourne autour de la Terre et qui entraîne toutes les autres planètes. Bon, et il s'adjoint à quelqu'un qui est mystique pour faire ses mesures et faire les corrections de réfraction, et ce quelqu'un s'appelle Kepler. Et
Johann
Kepler, qui a un mythe solaire, vraiment le soleil est au centre du monde, et qui va être, il va voir Dieu a fait un monde parfait qui est géométrique. Et le monde est l'image de la Trinité. C'est-à-dire, le soleil, c'est Dieu le Père, la sphère des étoiles fixes, c'est le Christ, c'est Dieu le Fils, et l'espace intermédiaire, c'est la géométrie. Vous voyez, c'est quand même un peu... il va publier en 1596 son Mysterium Cosmographicum, dans lequel il va empiler autour du soleil des solides et des sphères, des solides et sphères, les solides réguliers de Platon, des sphères, et montrer que les proportions de Copernic sont à peu près réservées par cette géométrie métaphysique, si vous voulez.
Richard Taillet, peut-être. Richard Taillet, sur ce binôme Tycho Brahe, Johannes Kepler, expliquez-nous un petit peu comment Kepler, finalement, qui est un grand copernicien, va porter ces travaux-là et va résoudre certains des problèmes que posait la théorie de Copernic.
Alors, en fait, même davantage que de résoudre, ce qu'il fait, c'est qu'il se pose les bonnes questions, en fait. La bonne question. Là, on est en train de parler de deux hypothèses. Un, les planètes tournent autour de la Terre. Deux, les planètes tournent autour du Soleil. Les deux propositions sont vraies, en fait. C'est-à-dire que, du point de vue de la Terre, si on regarde les étoiles, les planètes, on les voit effectivement se déplacer autour de nous, et on peut tout à fait imaginer un système qui rend compte de ces étoiles, de ces mouvements. En particulier, le modèle dans lequel on aurait le Soleil qui tourne autour de la Terre et les planètes qui tournent
autour du Soleil. En fait, c'est la réalité, c'est effectivement ce qui se passe de notre point de vue à nous. Quand on regarde autour de nous, c'est exactement ce qu'on observe. Et d'ailleurs, dans certains planétariums, vous avez des systèmes mécaniques qui reproduisent la position des planètes sur le toit, là, sur la sphère que les gens regardent, et c'est bâti sur Ptolémée, et ça marche très bien. Donc la question, c'est pas tellement celle-là. La question, c'est comment est-ce que effectivement on décrit au mieux ce qui nous entoure, comment on peut faire les meilleures prédictions, en fait. Hein. Bon. Je le rappelle aux auditeurs, le Soleil n'est pas au centre de l'univers, hein. Pas du tout.
Bien sûr, c'est le centre de notre système planétaire, mais
il est à peu près au centre. Il est pas très loin du centre de gravité du système solaire. Mmh. Voilà, il est pas exactement, mais pas très loin. Bon, donc ce que fait Kepler, c'est quelque chose de remarquable. Et en fait, c'est la naissance, une des naissances de la révolution scientifique, c'est qu'il adopte la méthode scientifique. En fait, il contribue à l'inventer. C'est-à-dire qu'il se pose la question, voilà, j'ai des prédictions par des modèles, j'observe le ciel, ou plutôt, là, en l'occurrence, c'est Tycho Brahe qui le fait avec des assistants, et on compare les deux. Ça, personne ne l'avait fait avant de manière systématique.
Et Kepler lui, s'il voit un écart Mars, hein, c'est ça,
d'une fraction de degré, voilà, entre les prédictions, et il n'est pas content. Et il va pousser jusqu'au bout, et là où d'autres se seraient peut-être contentés, effectivement, du modèle copernicien avec les épicycles déférents en disant, bah, ça marche à peu près. Lui, il est pas content. Kepler, il va jusqu'au bout et il s'aperçoit qu'en fait, ce sont des ellipses qui marchent. Ce sont pas des cercles sur des cercles. Il faut mettre des ellipses. Et ça, c'est le seul à vraiment avoir mené la démarche et à avoir été obstiné jusqu'au bout pour y arriver. Quand il le décrit, ça semble extrêmement douloureux pour lui. Il a passé beaucoup de temps, d'énergie, et il abandonne les cercles sur les cercles à contre-cœur. Mais voilà, c'est vraiment la méthode, à mon avis, qui naît ici, qui est fondamentale.
Bernard Metz, sur cette question de la méthode scientifique, comment est-elle prolongée par...
Kepler dispose des mesures de Tycho Brahe, il n'en fait pas lui-même, c'est un dieu qui a fait ses mesures et il tortille les mesures de mille façons possibles, et il se résout, au bout de 10 ans d'efforts, à adopter l'ellipse, qui est le compromis entre le droit et le courbe, n'est-ce pas, et entre l'ellipse et le compromis entre le cercle et la droite. Et si vous voulez, en 1597, il avait envoyé son Mysterium Cosmographicum à Galilée, et Galilée lui avait répondu « Je vois que tu as placé le soleil au centre du monde, comme notre cher Copernic, ce que je n'ose faire ici tellement je suis entouré d'imbéciles et de sots. » Et Galilée vivait à l'époque à Padoue. Et Galilée, lui, donc, ne va pas lire Kepler, ne va pas connaître les trajectoires elliptiques des planètes, mais va essayer de prouver le système de Copernic. Et il entend parler d'une lunette, il se la fait apporter, il l'améliore, il la tourne vers le ciel, et dans le ciel, il voit que la ligne a des montagnes, il y a des levées de soleil, des couchers de soleil, il mesure la hauteur des montagnes, donc la lune n'est pas parfaite, il voit les phases de Vénus, donc la Vénus ressemble à la lune, il voit les taches solaires, donc le soleil n'est pas parfait. Il regarde Orion et il voit que il y a 72 étoiles nouvelles à la lunette à l'intérieur du bouclier d'Orion. Il voit les satellites de Jupiter. Jupiter, tout le monde est d'accord pour savoir qu'il tourne autour de quelque chose, et il a des satellites. Donc ça explique que la Terre peut avoir des satellites. Et donc il commet un livre extraordinaire. C'est en 1610 le Siderus Nonius, dans lequel il décrit ses observations, et puis ensuite il va aller beaucoup plus loin en faisant dans le Dialogo en 1632, dans lequel il fait dialoguer donc un aristotélicien, Simplicio, avec deux coperniciens, et les coperniciens vont montrer à Simplicio que son système ne tient pas debout. Et c'est ça qu'il va causer la condamnation de Galilée. C'est parce que il a une phrase qui ne peut pas tolérer l'Église à cette époque-là. Le Saint-Esprit doit nous montrer comment aller au ciel et ne nous dit pas comment le ciel est. Et effectivement, dans la Bible, Dieu ne révèle jamais la manière dont il a procédé. Par contre, Dieu nous a donné une intelligence, et avec la méthode expérimentale, on va pouvoir, à la fin de la science, avoir la reconstruction des actes de Dieu. Donc l'évangile sert à avoir la foi et la science sert à avoir les actes. Mmh. Et cette différence-là va valoir sa condamnation, sa résidence surveillée. Et pendant sa résidence surveillée, il va mettre en place ce qu'il avait vu par l'expérience. Il fonde la méthode expérimentale et il va publier les Discorsi en Hollande. Et les Discorsi, vont mettre en accord une nouvelle physique, totalement une nouvelle physique, avec le mouvement de la Terre. Donc, le mouvement de la Terre est rendu possible et expliqué par une nouvelle physique. Hélas, Galilée, il n'a pas lu Kepler. Donc, pour lui, les mouvements sont circulaires et uniformes et éternels. Et ça va être corrigé par Descartes un peu plus tard. Descartes qui va montrer que si on fait tourner un caillou autour de notre tête, si on lâche la ficelle, le caillou part au loin, donc le mouvement circulaire et uniforme est un mouvement contraint, et Huygens puis Newton vont développer là une mathématisation des travaux de Galilée et de Kepler qui permettront une synthèse.
Et voilà, et ce sera finalement l'estocade portée par Newton à la pensée aristotélicienne, et ce sera la validation des prémices pensées par Copernic. Richard Taillet, peut-être pour conclure cette émission, qu'est-ce qu'incarne cette révolution de l'héliocentrisme, aussi bien d'un point de vue scientifique que philosophique? On a souvent tendance à la porter au pinacle de toutes les découvertes scientifiques. Pourquoi cette aura-là?
Cette aura, c'est parce que c'est un peu, c'est un super-héros, Copernic. Hein. Il a raison contre des siècles et des siècles d'une tradition. Voilà, il s'oppose à une tradition, il expose quelque chose de nouveau et il finit par avoir raison. Donc, je pense que la raison principale, c'est que ça raconte une belle histoire. C'est ça, quoi. Après, pour si on veut s'élever un petit peu, enfin c'est pas s'élever, je pense que c'est déjà c'est pas dire du mal que de dire ça, mais si on veut s'élever, l'histoire que ça raconte aussi, c'est l'histoire de l'évolution de la pensée. Et moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est justement l'après Copernic, c'est-à-dire comment on passe avec Newton et enfin avec quelques précurseurs, mais à une description du ciel qui est en termes de géométrie, donc les objets décrivent des courbes ou bien des cercles, ou bien des ellipses. Et avec Newton, en fait, on s'intéresse aux causes. Et ensuite, les courbes qui sont décrites sont les conséquences mathématiques, on va dire, de lois qu'on arrive à mettre. Bon. Si je peux me permettre juste 15 secondes de mot de la fin, encourager les lecteurs à lire la réédition du De Revolutionibus dans les belles lettres d'il y a quelques années. L'édition est magnifique avec un très bel appareil critique.
Le conseil est passé. Merci beaucoup à tous les deux, Richard Taillet et Bernard Metz, de nous avoir raconté l'histoire de cette révolution de l'héliocentrisme. Parce que tout épisode de Réka digne de ce nom se doit de terminer au soleil. On écoutait The Sun par Mead. Un grand merci à toute l'équipe de Réka, Mariam Ibrahim, Garance Prema-Agnolo, Alexandra Delbo, Loïc Dutois, David Jakuboviez à la réalisation accompagné de Sam Bakiast. À la technique aujourd'hui, c'était Audrey Guélil. Vous pouvez, comme chaque jour, réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans le grand bain de Réka. Et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir.
Chloé ?
Oui ?
Tu viens ? Je vais te montrer les étoiles.
Moi, les étoiles, je suis pas contre.
Surtout si ça me fait aller me coucher plus tard.
Le premier podcast France Culture, Savoir et Science, dédié à la jeunesse. Les mondes de Chloé. Le nez en l'air et la tête dans les étoiles. Histoire de grandes et petites ours. Entre fiction et astronomie, la première saison consacrée au ciel et aux constellations. Les mondes de Chloé, à la belle étoile, par Alice Buteau et Charlotte Roux, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.